You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Saving money on your outdoor project? Now at Menards. We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth, so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat. Right now, all FVP, lawn and garden, and marine batteries are on sale through May 5th. Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals. Save big money at
Menards. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 5, Les enfants pauvres. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, 5, Les enfants pauvres. Prenez garde à ce petit être. Il est bien grand. Il contient Dieu. Les enfants sont, avant de naître, des lumières dans le ciel bleu. Dieu nous les offre en sa largesse. Ils viennent. Dieu nous en fait don. Dans leur rire, il met sa sagesse, et dans leur baiser son pardon. Leur douce clarté nous effleure. Hélas, le bonheur est leur droit. S'ils ont faim, le paradis pleure, et le ciel tremble s'ils ont froid. La misère de l'innocence accuse l'homme vicieux. L'homme tient l'ange en sa puissance. Oh, quel tonnerre au fond des cieux, quand Dieu, cherchant ces êtres frêles que dans l'ombre où nous sommeillons, il nous envoie avec des ailes, les retrouve avec des haillons. Fin de Les enfants pauvres. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 6, Au champ. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, Au champ. Je me penche attendri sur les bois et les eaux, rêveur, grand-père aussi des fleurs et des oiseaux. J'ai la pitié sacrée et profonde des choses. J'empêche les enfants de maltraiter les roses. Je dis: n'effarez point la plante et l'animal. Riez sans faire peur, jouez sans faire mal. Jeanne et Georges, front pur, prunelles éblouies, rayonnent au milieu des fleurs épanouies. J'erre, sans le troubler, dans tout ce paradis. Je les entends chanter. Je songe, et je me dis qu'ils sont inattentifs, dans leur charmant tapage, au bruit sombre que font en se tournant les pages du mystérieux livre où le sort est écrit, et qu'ils sont loin du prêtre et près de Jésus-Christ. Fin de Au champ. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 7, encore l'Immaculée Conception. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, 7, encore l'Immaculée Conception. Attendez, je regarde une petite fille. Je ne la connais pas, mais cela chante et brille. C'est du rire, du ciel, du jour, de la beauté, et je ne puis passer froidement à côté. Elle n'a pas 3 ans. C'est l'aube qu'on rencontre. Peut-être elle devrait cacher ce qu'elle montre, mais elle n'en sait rien. Et d'ailleurs, c'est charmant. Cela, certes, ressemble au divin firmament, plus que la face auguste et jaune d'un évêque. Le babil des marmots est ma bibliothèque. J'ouvre chacun des mots qu'ils disent, comme on prend un livre, et j'y découvre un sens profond et grand, sévère quelquefois. Donc j'écoute cet ange, et ce gazouillement me rassure, me venge, m'aide à rire du mal qu'on veut me faire, éteint ma colère, et vraiment m'empêche d'être atteint par l'ombre du hideux sombrero de Basile. Cet enfant est un cœur, une fête, un asile, et Dieu met dans son souffle, et Dieu mêle à sa voix, toutes les fleurs des champs, tous les oiseaux des bois. Ma Jeanne, qui pourrait être sa sœur jumelle, traînait, l'été dernier, un chariot comme elle, l'emplissait, le vidait, riait d'un rire fou, courait. Tous les enfants ont le même joujou, tous les hommes aussi. C'est bien, va, sois ravi, et traîne ta charrette en attendant la vie. Louange à Dieu, toujours un enfant m'apaisa, doux être, voyez-moi les mains que ça vous a. Allons, remettez donc vos bas, mademoiselle, elle est pieds nus, elle est barbouillée, elle est belle. Sa charrette est cassée, et, comme nous, ma foi, elle se fait un char avec n'importe quoi. Tout est char de triomphe à l'enfant comme à l'homme. L'enfant aussi veut être un peu bête de somme, comme nous. Il se fouette, il s'impose une loi, il traîne son hocher comme nous notre roi. Seulement, l'enfant brille où le peuple se vautre. Bon, voici maintenant qu'on en amène une autre. Une d'un an, sa sœur sans doute, un grand chapeau, une petite tête, et des yeux, une peau, un sourire, oh, qu'elle est tremblante et délicate. Chef-d'œuvre, montrez-moi votre petite patte. Elle allonge le pied et chante. C'est divin. Quand je songe, et Veuillot n'a pu le dire en vain, qu'elles ont toutes deux la tache originelle. La chute est leur vrai nom. Chacune porte en elle l'affreux venin d'Adam, bon style patouillé. Elles sont, sous le ciel qu'Ève jadis souillait, d'horribles péchés, faits d'une façon charmante. La beauté qui s'ajoute à la faute l'augmente. Leur grâce est un remords de plus pour le pécheur, et leur mère apparaît, noire de leur blancheur. Ces enfants que l'aube aime et que la fleur encense, c'est la honte portant ce masque, l'innocence. Dans ses yeux purs, Trublé l'affirme en son serment, brille l'incognito sinistre du démon. C'est le mal, c'est l'enfer. Cela sort des abîmes. Soit, laissez-moi donner des gâteaux à ses crimes. Fin de Encore l'Immaculée Conception. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Puero, 8, marié et mère. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo, 15e partie, Laus Puero, 8, marié et mère. Voir la Jeanne de Jeanne. Oh, ce serait mon rêve. Il est dans l'ombre sainte un ciel vierge où se lève pour on ne sait quels yeux, on ne sait quel soleil. Les âmes à venir sont là, l'azur vermeil les berce, et Dieu les garde en attendant la vie. Car, pour l'âme aux destins ignorés, asservie, il est deux horizons d'attente, sans combat, l'un avant, l'autre après le passage ici-bas. Le berceau cache l'un, la tombe cache l'autre. Je pense à cette sphère inconnue à la nôtre, où, comme un pâle essaim confusément joyeux, des flots d'âmes en foule ouvrent leurs vagues yeux. Puis, je regarde Jeanne, ange que Dieu pénètre, et les petits garçons jouant sous ma fenêtre. Toute cette gaieté de l'âge sans douleur, tous ces amours dans l'œuf, tous ces époux en fleurs, et je médite. Et Jeanne entre, sort, court, appelle, traîne son petit char, tient sa petite pelle, fouille dans mes papiers, creuse dans le gazon, saute et jase, et remplit de clarté la maison. Son rire est le rayon, ses pleurs sont la rosée, et dans 20 ans d'ici je jette ma pensée, et de ce qui sera, je me fais le témoin, comme on jette une pierre avec la fronde loin. Une aurore n'est pas faite pour rester seule. Mon âme de cette âme enfantine est l'aïeule, et dans son jeune sort mon cœur pensif descend. Un jour, un frais matin quelconque, éblouissant, épousera cette aube encore pleine d'étoiles. Et quelque âme, à cette heure errante sous les voiles, où l'on sent l'avenir en Dieu se reposer, profitera pour naître ici-bas d'un baiser que se donneront l'une à l'autre ces aurores. Ô tendre oiseau des bois, qui dans ton nid pérore, voix éparse au milieu des arbres palpitants qui chantent la chanson sonore du printemps. Ô mésange, ô fauvette, ô tourterelle blanche, sorte de rêve ailé, fuyant de branche en branche, doux murmure envolé dans les champs embaumés, je t'écoute et je suis plein de songes. Aimez, vous qui vivrez, hymen, chaste hymen, ô nature, Jeanne aura devant elle alors son aventure, l'être en qui notre sort s'accroît et s'interrompt. Elle sera la mère au jeune et grave front, la gardienne d'une aube à qui la vie est due, épouse responsable et nourrice éperdue, la tendre âme sévère, et ce sera son tour de se pencher, avec un inquiet amour, sur le frêle berceau, céleste et diaphane. Ma Jeanne, ô rêve, azur, contemplera sa Jeanne. Elle l'empêchera de pleurer, de crier, et lui joindra les mains et la fera prier, et sentira sa vie à ce souffle mêlé. Elle redoutera pour elle une gelée, le vent, tout, rien, ô fleur fragile du péché, et, quand le doux petit ange pourra marcher, elle l'amènera jouer aux Tuileries. Beaucoup d'enfants courront sous les branches fleuries, mêlant l'avril de l'homme au grand avril de Dieu. D'autres femmes, gaiement, sous le même ciel bleu, seront là comme Jeanne, heureuses, réjouies par cette éclosion d'âmes épanouies. Et, sur cette jeunesse inclinant leur beau front, toutes ces mères, sœurs devant Dieu, souriront dans l'éblouissement de ces roses sans nombre. Moi, je ne serai plus qu'un œil profond dans l'ombre. Fin de Mariée et mère. L'art d'être grand-père, 15e partie, Laus Poirot. 9. Que voulez-vous? L'enfant me tient en sa puissance. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 15e partie, Laus Poirot. 9. Que voulez-vous? L'enfant me tient en sa puissance. Que voulez-vous? L'enfant me tient en sa puissance. Je finis par ne plus aimer que l'innocence. Tous les hommes sont cuivre et plomb. L'enfant, c'est l'or. J'adore Astyanax et je gourmande Hector. Es-tu sûr d'avoir fait ton devoir envers Troie? Mon ciel est un azur qui, par instant, foudroie. Bonté, fureur, c'est là mon flux et mon reflux, et je ne suis borné d'aucun côté. Pas plus quand ma bouche sourit que lorsque ma voix gronde. Je me sens plein d'une âme étoilée et profonde. Mon cœur est sans frontières, et je n'ai pas d'endroit. Où finissent l'amour des petits, et le droit des faibles et l'appui qu'on doit aux misérables? Si c'est un mal, il faut me mettre aux incurables. Je ne vois pas qu'allant du ciel au genre humain, un rayon de soleil s'arrête à mi-chemin. La modération du vrai m'est inconnue. Je veux le rire franc, je veux l'étoile nue. Je suis vieux, vous passez, et moi, triste ou content, j'ai la paternité du siècle sur l'instant. Trouvez-moi quelque chose, et quoi que ce puisse être d'extrême, appartenant à mon emploi d'ancêtre, blâme aux uns ou secours aux autres, je le fais. Un jour, je fus parmi les vainqueurs, j'étouffai. Je sentais à quel point vaincre est impitoyable. Je pris la fuite. Un roc, une plage de sable m'accueillirent. La mort vint me parler. Proscrit, me dit-elle, salut. Et quelqu'un me sourit, quelqu'un de grand qui rêve en moi, ma conscience. Et j'aimais les enfants, ne voyant que l'enfance. Ô ciel mystérieux, qui valut mieux que moi? L'enfant, c'est de l'amour et de la bonne foi. Le seul être qui soit dans cette sombre vie petit avec grandeur, puisqu'il l'est sans envie, c'est l'enfant. C'est pourquoi j'aime ces passereaux. Pourtant, ces myrmidons, je les rêve héros. France, j'attends qu'ils soient au devoir saisissable. Dès que nos fils sont grands, je les sens responsables, je cesse de sourire, et je me dis qu'il faut livrer une bataille immense à l'échafaud, au trône, au sceptre, au glaive, au louvre, au repère. Je suis tendre aux petits, mais rude pour les pères. C'est ma façon d'aimer les hommes faits. Je veux qu'on pense à la patrie, empoignée aux cheveux et par les pieds traînés autour du camp vandale. Lorsqu'à Rome, à Berlin, la bête féodale renaît et rouvre, à front, pour le soleil levant, deux gueules qui d'ailleurs s'entremordent souvent, je m'indigne. Je sens, ô suprême souffrance, la diminution tragique de la France, et j'accuse quiconque a la barbe au menton. Quoi? Ce grand imbécile à l'âge de Danton? Quoi? Ce drôle et jocrisse et pourrait être Hoche? Alors, l'aube à mes yeux surgit comme un reproche. Tout s'éclipse, et je suis de la tombe envieux. Morne, je me souviens de ce qu'ont fait les vieux. Je songe à l'océan assiégeant les falaises, au vaste écroulement qui suit les Marseillaises. Aux portes de la nuit, aux hydres, aux dragons, à tout ce que ces preux ont jeté hors des gonds. Je les revois mêlant aux éclairs leurs bannières. Je songe à la joyeuse et farouche manière dont ils tordaient l'Europe entre leurs poings d'airain. Oh, ces soldats du Nil, de l'Argonne et du Rhin, ces lutteurs, ces vengeurs, je veux qu'on les imite. Je vous le dis, je suis un aïeul sans limite. Après l'ange, je veux l'archange firmament. Moi, grand-père indulgent, mais ancêtre inclément, aussi doux d'un côté que sévère de l'autre, j'aime la gloire énorme, et je veux qu'on s'y vautre, quand cette gloire est sainte et sauve mon pays. Dans les Herculanum et dans les Pompéi, je ne veux pas qu'on puisse un jour compter nos villes. Je ne vois pas pourquoi les âmes seraient viles. Je ne vois pas pourquoi l'on n'égalerait pas dans l'audace, l'effort, l'espoir, dans le trépas, les hommes d'Iéna, d'Ulm et des pyramides. Les vaillants ont-ils donc engendré les timides? Non. Vous avez du sang aux veines, jeunes gens. Nos aïeuls ont été des héros, outrageants, pour le vieux monde infâme. Il reste de la place dans l'avenir. Soyez peuple et non populace. Soyez comme eux, géants. Je n'ai pas de raison pour ne point souhaiter les mêmes horizons, les mêmes nations en chantant délivrées, le même arrachement des fers et délivrés, et la même grandeur sans tache et sans remords à nos enfants vivants qu'à nos ancêtres morts. Fin de 9. L'art d'être grand-père, 16e partie, deux chansons. Chansons de grand-père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 16e partie, deux chansons. Chansons de grand-père. Dansez, les petites filles, toutes en rond. En vous voyant si gentilles, les bois riront. Dansez, les petites reines, toutes en rond, les amoureux sous les frênes s'embrasseront. Dansez, les petites folles, toutes en rond, les bouquins dans les écoles bougonneront. Dansez, les petites belles, toutes en rond, les oiseaux avec leurs ailes applaudiront. Dansez, les petites fées, toutes en rond, dansez, de bleuets coiffées, l'aurore au front. Dansez les petites femmes, toutes en rond, les messieurs diront aux dames ce qu'ils voudront. Fin de chanson de grand-père. L'art d'être grand-père, 16e partie, deux chansons. Deux chansons d'ancêtres. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 16e partie, deux chansons. Deux chansons d'ancêtres. Parlons de nos aïeux sous la verte feuillée. Parlons des pères, fils. Ils ont rompu leur fer et vaincu. Leur armure est aujourd'hui rouillée. Comme ils tombent de l'eau d'une éponge mouillée, de leur âme dans l'ombre ils tombaient des éclairs, comme si dans la foudre on les avait trempés. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Ils craignaient le vin sombre et les pâles ménades. Ils étaient indignés, ces vieux fils de Brennus, de voir les rois passer fiers sous les colonnades. Les cortèges des rois étant des promenades de prêtres, de soldats, de femmes aux seins nus, d'hymnes et d'encensoirs, et de têtes coupées. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Ils ont voulu, couver, créer la délivrance. Ils étaient les titans, nous sommes les fourmis. Ils savaient que la Gaule enfanterait la France. Quand on a la hauteur, on a la confiance. Les montagnes, à qui le rayon est promis, songent et ne sont point par l'aurore trompées. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Quand une ligue était par les princes construite, ils grondaient et, pour peu que la chose en valût la peine et que leur chef leur criât « Tout de suite !» ils accouraient. Alors les rois prenaient la fuite en hâte, et les chansons d'un vil joueur de lutte ne sont pas dans les airs plus vite dissipées. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Lutteurs du gouffre, ils ont découronné le crime, brisé les autels noirs, détruit les dieux brigands. C'est pourquoi moi, vieillard, penché sur leur abîme, je les déclare grands, car rien n'est plus sublime que l'océan avec ses profonds ouragans, si ce n'est l'homme avec ses sombres épopées. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Hélas, sur leurs flambeaux, nous, leurs fils, nous soufflâmes. Fiers aïeux, ils disaient aux faux prêtres, « Va-t'en !» Du bûcher misérable, ils éteignaient les flammes, et c'est par leur secours que plusieurs grandes âmes, mises injustement au bagne par Satan, tu le sais, Dieu, se sont de l'enfer échappées. Frappez, écoliers, avec les épées sur les boucliers. Levez vos fronts, voyez ce pur sommet, la gloire, ils étaient là, voyez cette cime, l'honneur. Ils étaient là. Voyez ce hautain promontoire, la liberté. Mourir libre fut leur victoire. Il faudra, car l'orgie est un lâche bonheur, se remettre à gravir ces pentes escarpées. Frappez, chevaliers, avec les épées sur les boucliers. Fin de Chanson d'ancêtre. L'art d'être grand-père, 17e partie, Jeanne endormie. 4. L'oiseau chante. Je suis au fond des rêveries. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 17e partie, Jeanne endormie. 4. L'oiseau chante. Je suis au fond des rêveries. L'oiseau chante. Je suis au fond des rêveries. Rose. Elle est là qui dort sous les branches fleuries, dans son berceau tremblant comme un nid d'alcyon, douce, les yeux fermés, sans faire attention au glissement de l'ombre et du soleil sur elle. Elle est toute petite, elle est surnaturelle. Ô suprême beauté de l'enfant innocent, moi je pense, elle rêve. Et sur son front descend un entrelacement de visions sereines. Des femmes de l'azur qu'on prendrait pour des reines, des anges, des lions, ayant des airs bénins, de pauvres bons géants protégés par des nains, des triomphes de fleurs dans les bois, des trophées d'arbres célestes pleins de la lueur des fées, un nuage où l'Éden apparaît à demi, voilà ce qui s'abat sur l'enfant endormi. Le berceau des enfants est le palais des songes. Dieu se met à leur faire un tas de doux mensonges. De là leurs frais sourires et leur profonde paix. Plus d'un dira plus tard, « Bon Dieu, tu me trompais ?» Mais le bon Dieu répond dans la profondeur sombre, « Non, ton rêve est le ciel, je t'en ai donné l'ombre. Mais ce ciel, tu l'auras. Attends l'autre berceau, la tombe. Ainsi je songe, ô printemps. Chante, oiseau. » Fin de Jeanne endormie. L'art d'être grand-père, 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 1. Patrie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 1. Patrie. Ô France, ton malheur m'indigne et m'est sacré. Je l'ai dit, et jamais je ne me lasserai de le redire. Et c'est le grand cri de mon âme. Quiconque fait du mal à ma mère est infâme. En quelque lieu qu'il soit caché, tous mes souhaits le menacent. Sur terre ou là-haut, je le hais. César, je le flétris. Destin, je le secoue. Je questionne l'ombre et je fouille la boue. L'empereur, ce brigand, le hasard, ce bandit, éveille ma colère. Et ma strophe maudit avec des pleurs sanglants, avec des cris funèbres, le sort. Ce mauvais drôle errant dans les ténèbres. Je rappelle la nuit, le gouffre, le ciel noir, et les événements farouches au devoir. Je n'admets pas qu'il soit permis aux sombres causes qui mêlent au droit vrai l'aveuglement des choses de faire rebrousser chemin à la raison. Je dénonce un revers qui vient par trahison. Quand la gloire et l'honneur tombent dans une embûche, j'affirme que c'est Dieu lui-même qui trébuche. J'interpelle les faits tortueux et rampants, la victoire, l'hiver, l'ombre et ses guet-apens. Je dis à ces passants quelconques de l'abîme que je les vois, qui sont en train de faire un crime, que nous ne sommes point des femmes à genoux, que nous réfléchissons, qu'ils prennent garde à nous, que ce n'est pas ainsi qu'on doit traiter la France, et que, même tombée au fond de la souffrance, même dans le sépulcre, elle a l'étoile au front. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me répondront. Je suis un curieux, et je gênerai, certes, le destin qu'un regard sévère déconcerte, car on est responsable au ciel plus qu'on ne croit. Quand le progrès devient boiteux, quand Dieu décroît en apparence, ayant sur lui la nuit barbare, quand l'homme est un esquif dont Satan prend la barre, il est certain que l'âme humaine est au cachot, et qu'on a dérangé quelque chose là-haut. C'est pourquoi je demande à l'ombre la parole. Je ne suis pas de ceux dont la fierté s'envole et qui, pour avoir vu régner des ruffians et des gueux, cessent d'être à leur droit confiants. Je lave ma sandale et je poursuis ma route. Personne n'a jamais vu mon âme en déroute. Je ne me trouble point parce qu'en ses reflux, le vil destin sur nous jette un rosebac de plus. La défaite me fait songer à la victoire. J'ai l'obstination de l'altière mémoire. Notre linceul toujours eut la vie en ses plis. Quand je lis Waterloo, je prononce Austerlitz. Le deuil donne un peu plus de hauteur à ma tête. Mais ce n'est pas assez. Je veux qu'on soit honnête là-haut, et je veux voir ce que les destins font chez eux, dans la forêt du mystère profond. Car ce qu'ils font chez eux, c'est chez nous qu'on le souffre. Je prétends regarder face à face le gouffre. Je sais que l'ombre doit rendre compte aux esprits. Je désire savoir pourquoi l'on nous a pris nos villes, notre armée et notre force utile. Et pourquoi l'on filoute et pourquoi l'on mutile l'immense peuple aimant d'où sortent les clartés. Je veux savoir le fond de nos calamités, voir le dedans du sort misérable et connaître ces recoins où trop peu de lumière pénètre. Pourquoi l'assassinat du Midi par le Nord? Pourquoi Paris vivant vaincu par Berlin mort? Pourquoi le bagne à l'ange et le trône au squelette? Ô France, je prétends mettre sur la sellette la guerre, les combats, nos affronts, nos malheurs, et je ferai vider leurs poches à ces voleurs, car juger le hasard, c'est le droit du prophète. J'affirme que la loi morale n'est pas faite pour qu'on souffle dessus là-bas, dans la hauteur, et qu'un événement peut être un malfaiteur. J'avertis l'inconnu que je perds patience, et c'est là la grandeur de notre conscience que, seul et triste, ayant pour appui le berceau, l'innocence, le droit des faibles, le roseau et les terribles. Et là, par ce seul mot, justice, entrer au ciel. Et, si la comète au solstice s'égare, elle pourrait lui montrer son chemin. Elle requiert Dieu même au nom du genre humain. Elle est la vérité, blanche, pâle, immortelle. Pas une force n'est la force devant elle. Les lois qu'on ne voit pas penchent de son côté. Oui, c'est là la puissance et c'est là la beauté de notre conscience. Écoute ceci, prêtre, qu'elle ne comprend pas qu'un attentat puisse être par quelqu'un qui serait juste prémédité. Oui, sans armes, n'ayant que cette nudité, le vrai, quand un éclair tombe mal sur la terre, quand un des coups obscurs qui sortent du mystère frappe à tâtons et met les peuples en danger, s'il lui plaisait d'aller là-haut l'interroger au milieu de cette ombre énorme qu'on vénère, tranquille, elle ferait bégayer le tonnerre. Fin 2. Que les petits liront quand ils seront grands. L'art d'être grand-père, 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 2. Persévérance. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 2. Persévérance. N'importe. Allons au but. Continuons. Les choses, quand l'homme tient la clé, ne sont pas longtemps closes. Peut-être qu'elle-même, ouvrant ses pâles yeux, la nuit, lasse du mal, ne demande pas mieux que de trouver celui qui saura la convaincre. Le devoir de l'obstacle est de se laisser vaincre. L'obscurité nous craint et recule en grondant. Regardons les penseurs de l'âge précédent. ces héros, ces géants qu'une même âme anime, détachés par la mort de leur travail sublime, passés, les pieds poudreux et le front étoilé. Saluons la sueur du relais dételé et marchons. Nous aussi, nous avons notre étape. Le pied de l'avenir sur notre pavé frappe. En route. Poursuivons le chemin commencé. Augmentons l'épaisseur de l'ombre du passé. Laissons derrière nous, et le plus loin possible, toute l'antique horreur de moins en moins visible. Déjà, le précurseur dans ses brumes brilla. Platon vint jusqu'ici. Luther a monté là. Voyez, de grands rayons marquent de grands passages. L'ombre est pleine partout du flamboiement des sages. Voici l'endroit profond où Pascal s'est penché, criant « Gouffre !» Jean-Jacques, où je marche, a marché. C'est là que, s'envolant lui-même aux cieux, Voltaire, se sentant devenir sublime, a perdu terre, disant « Je vois !» ainsi qu'un prophète ébloui. Luttons comme eux, luttons, le front épanoui. Marchons. Un pas qu'on fait, c'est un chant qu'on révèle. Déchiffrons dans les temps nouveaux la loi nouvelle. Le cœur n'est jamais sourd, l'esprit n'est jamais là, et la route est ouverte aux fiers apostolats. Ô tous, vivez, marchez, croyez. Soyez tranquilles. Mais quoi ? Le râle sourd des discordes civiles, ces siècles de douleurs, de pleurs, d'adversités, hélas, tous ces souffrants, tous ces déshérités, tous ces proscrits, le deuil, la haine universelle, tout ce qui dans le fond des âmes s'amoncelle, cela ne va-t-il pas éclater tout à coup? La colère est partout, la fureur est partout, les cieux sont noirs. Voyez, regardez, il est clair. Qu'est-ce que la fureur? Qu'importe la colère? La vengeance sera surprise de son fruit. Dieu nous transforme. Il a pour tâche en notre nuit l'auguste avortement de la foudre en aurore. Dieu prend dans notre cœur la haine et la dévore. Il se jette sur nous des profondeurs du jour et nous arrache tout de l'âme, hors l'amour. Avec ce bec d'acier, la conscience, il plonge jusqu'à notre pensée et jusqu'à notre songe, fouille notre poitrine et, quoi que nous fassions, jusqu'aux vils intestins qu'on nomme passion. Il pille nos instincts mauvais, il nous dépouille de ce qui nous tourmente et de ce qui nous souille. Et quand il nous a fait pareil au ciel béni, bons et purs, il s'envole et rentre à l'infini. Et, lorsqu'il a passé sur nous, l'âme plus grande sent qu'elle ne hait plus, et rend grâce et demande « Qui donc m'a prise ainsi dans ses serres de feu ?» et croit que c'est un aigle, et comprend que c'est Dieu. Fin de Persévérance. L'art d'être grand-père, 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 3. Progrès. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo, 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 3. Progrès. En avant, grande marche humaine. Peuple, change de région. Ô larve, deviens phénomène. Ô troupeau, deviens légion. Cours, aigle, où tu vois l'aube éclore. L'acceptation de l'aurore n'est interdite qu'au hibou. Dans le soleil, Dieu se devine. Le rayon à l'âme divine et l'âme humaine à ses deux bouts. Il vient de l'une et vole à l'autre. Il est pensée et en clarté. En haut, archange. En bas, apôtre. En haut, flamme, en bas, liberté. Il crée Horace ainsi que Dante. Dort la rose au vent pendante et le chaos nous voguons. De la même émeraude il touche l'humble plume de l'oiseau-mouche et l'âpre écaille des dragons. Prenez les routes lumineuses, prenez les chemins étoilés, esprit semeur, âme glaneuse. Allez, 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 allez! Esclaves d'hier, tristes hommes, hors des bagnes, hors des sodomes, marchez, soyez vaillants, montez, ayez pour triomphe la gloire où vous entrez, ô foule noire, et l'opprobre dont vous sortez. Homme, franchis les mers, secoue dans l'écume tout le passé, allume en étoupe à ta proue le chanvre du gibet brisé, gravis les montagnes, écrase tous les vieux monstres dans la vase, ressemble aux anciens Apollons, quand l'épée est juste, elle est pure. Va donc, car l'homme a pour parure le sang de l'hydre à ses talons. Fin de Progrès. L'art d'être grand-père, 18e partie, que les petits liront quand ils seront grands. 4. Fraternité. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père de Victor Hugo. 18e partie. Que les petits liront quand ils seront grands. 4. Fraternité. Je rêve l'équité, la vérité profonde, l'amour qui veut, l'espoir qui luit, la foi qui fonde, et le peuple éclairé plutôt que châtié. Je rêve la douceur, la bonté, la pitié, et le vaste pardon. De là ma solitude. La vieille barbarie humaine a l'habitude de s'absoudre et de croire, hélas, que ce qu'on veut, prêtre ou juge, on a droit de le faire, et qu'on peut ôter sa conscience en mettant une robe. Elle prend l'équité céleste, elle y dérobe ce qui la gêne, y met ce qui lui plaît, biffant tout ce qu'on doit aux faibles, à la femme, à l'enfant. Elle change le chiffre, elle change la somme, et du droit selon Dieu fait la loi selon l'homme. De là les hommes Dieu, de là les rois soleil. De là sur les pavés tant de ruisseaux vermeils, de là les Laffemas, les Vouglans, les Baville, de là l'effroi des champs et la terreur des villes, les lapidations, les deuils, les cruautés, et le front sérieux des sages insultés. Jésus paraît, qui donc s'écrie, « Il faut qu'il meure !» C'est le prêtre. Ô douleur, à jamais, à demeure, et quoi que nous disions, et quoi que nous songions, les Euménides sont dans les religions. Mégère est catholique, Alecton est chrétienne, Clotho, nonne sanglante, accompagnait l'Antienne d'Arbuèze, et l'on entend dans l'église sa voix. Ces bacchantes du meurtre encourageaient Louvois, et les monts étaient pleins du cri de ces ménades, quand Bossuet poussait Boufflers aux dragonnades. Ne vous figurez pas, si Dieu lui-même accourt, que l'antique fureur de l'homme reste court et recule devant la lumière céleste. Au plus pur vent d'en haut, elle mêle sa peste, elle mêle sa rage au plus doux chant d'amour, s'enfuit avec la nuit, mais rentre avec le jour. Le progrès le plus vrai, le plus beau, le plus sage, le plus juste, subit son monstrueux passage. L'homme ne peut chasser l'affreux spectre importun. Cromwell frappe un tyran, Charles, il en reste un, Cromwell. L'atroce meurt, l'atrocité subsiste. Le bon sens, souriant et sévère exorciste, attaque ce vampire et n'en a pas raison. Comme une sombre aïeule habitant la maison, la barbarie a fait de nos cœurs ses repères, et tient les fils après avoir tenu les pères. L'idéal un jour naît sur l'ancien continent. Tout un peuple ébloui se lève rayonnant. Le 14 juillet jette au vent les Bastilles, les révolutions. Ô liberté, tes filles! se dresse sur les monts et sur les océans et gagne la bataille énorme des géants. Toute la terre assiste à la fuite inouïe du passé, néant, nuit, larve, ombre évanouie. L'inepte barbarie attend à ce laurier et perd Torquemada, mais retrouve Carrier. Elle se trouble peu de toute cette aurore. La vaste ruche humaine, éveillée et sonore, s'envole dans l'azur, travaille au jour meilleur, chante et fait tous les miels avec toutes les fleurs. La vieille âme du vieux Caïn, l'antique haine, est là, voit notre Éden et songe à sa géhenne, ne veut pas s'interrompre et ne veut pas finir, rattache au vil passé l'éclatant avenir, et remplace s'il manque un chaînon à sa chaîne, le père Letellier par le père Duchesne. De sorte que Satan peut, avec les maudits, rire de notre essai manqué de paradis. Eh bien moi je dis non. Tu n'es pas en démence, mon cœur, pour vouloir l'homme indulgent, bon, immense, pour crier « Sois clément, sois clément, sois clément !» et parce que ta voix n'a pas d'autre enrouement. Tu n'es pas furieux parce que tu souhaites plus d'aube aux cygnes et moins de nuit pour les chouettes, parce que tu gémis sur tous les opprimés. Non. Ce n'est pas un fou celui qui dit « aimer ». Non, ce n'est pas errer et rêver que de croire que l'homme ne naît point avec une âme noire, que le bon est latent dans le pire, et qu'au fond, peu de fautes vraiment sont de ceux qui les font. L'homme est au mal ce qu'est à l'air le baromètre. Il marque les degrés du froid sans rien omettre, mais sans rien ajouter. Et, s'il monte ou descend, hélas, la faute en est au vent, ce noir passant. L'homme est le vain drapeau d'un sinistre édifice. Tout souffle qui frémit, flotte, serpente, glisse et passe, il le subit, et le pardon est dû à ce haillon vivant dans les cieux éperdus. Homme, pardonnez-vous. Ô mes frères, vous êtes dans le vent, dans le gouffre obscur, dans les tempêtes, pardonnez-vous. Les cœurs saignent, les ans sont courts. Ah, donnez-vous les uns les autres ce secours. Oui, même quand j'ai fait le mal, quand je trébuche et tombe, l'ombre étant la cause de l'embûche, la nuit faisant l'erreur, l'hiver faisant le froid, être absous, pardonné, plein, aimé, c'est mon droit. Un jour, je vis passer une femme inconnue. Cette femme semblait descendre de la nue. Elle avait sur le dos des ailes et du miel sur sa bouche entr'ouverte, et dans ses yeux le ciel. À des voyageurs là, à des errants sans nombre, elle montrait du doigt une route dans l'ombre, et semblait dire « On peut se tromper de chemin ». Son regard faisait grâce à tout le genre humain. Elle était radieuse et douce, et, derrière elle, des monstres attendris venaient, baisant son aile. Des lions graciés, des tigres repentants, Nemrod sauvé, Néron en pleurs. Et par instant, à force d'être bonne, elle paraissait folle. Et, tombant à genoux, sans dire une parole, je l'adorais, croyant deviner qui c'était. Mais elle, devant l'ange en vain, l'homme se tait, vit ma pensée et dit « Faut-il qu'on t'avertisse ? Tu me crois la pitié ? Fils, je suis la justice. » Fin de Fraternité. L'art d'être grand-père, 18e partie, que les petits liront quand ils seront grands. 5. L'âme à la poursuite du vrai. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. L'art d'être grand-père, de Victor Hugo, 18e partie, que les petits liront quand ils seront grands. 5. L'âme à la poursuite du vrai. 1. Je m'en irai dans les chars sombres du songe et de la vision. Dans la blême cité des ombres, je passerai comme un rayon. J'entendrai leurs vagues huées. Je semblerai dans les nuées le grand échevelé de l'air. J'aurai sous mes pieds le vertige, et dans les yeux plus de prodiges que le météore et l'éclair. Je rentrerai dans ma demeure, dans le noir monde illimité, jetant à l'éternité l'heure et la terre à l'immensité. Repoussant du pied nos misères, je prendrai le vrai dans mes serres et je me transfigurerai, et l'on ne verra plus qu'à peine un reste de lueur humaine trembler sous mon sourcil sacré. Car je ne serai plus un homme, je serai l'esprit ébloui, à qui le sépulcre se nomme, à qui l'énigme répond « oui ». L'ombre aura beau se faire horrible, je m'épanouirai terrible, comme Élie à Gethsémani, comme le vieux Thalès de Grèce, dans la formidable allégresse de l'abîme et de l'infini. Je questionnerai le gouffre sur le secret universel, et le volcan, l'urne de soufre, et l'océan, l'urne de sel. Tout ce que les profondeurs savent, tout ce que les tourmentes lavent, je sonderai tout. Et j'irai jusqu'à ce que, dans les ténèbres, je heurte mes ailes funèbres à quelqu'un de démesuré. Parfois, m'envolant jusqu'au faîte, parfois tombant de tout mon poids, j'entendrai crier sur ma tête tous les cris de l'ombre à la fois, tous les noirs oiseaux de l'abîme, l'orage, la foudre sublime, l'âpre aquilon séditieux, tous les effrois qui, pêle-mêle, tourbillonnent, battant de l'aile dans le précipice des cieux. La nuit pâle, immense fantôme dont l'espace insondable épars, du haut du redoutable dôme, se penchera de toutes parts. Je la verrai lugubre et vaine, telle que la vie antisthène, qui demandait au vent « Pourquoi ?» telle que la vie épicure, avec des plis de robe obscurs, flottant dans l'ombre autour de moi. « Homme, la démence t'emporte, » dira le nuage irrité. « Prends-tu la nuit pour une porte ?» murmurera l'obscurité. L'espace dira « Qui t'égare ? » Passeras-tu, barde, où Pindare et David ne sont point passés ?« C'est ici, » criera la tempête. Qu'Hésiode a dit « Je m'arrête ». Qu'Ézéchiel a dit « Assez ». Mais tous les efforts des ténèbres sur mon essor s'épuiseront sans faire fléchir mes vertèbres et sans faire pâlir mon front. Au sphinx, au prodige, au problème, j'apparaîtrai monstre moi-même, être pour deux destins construits, ayant dans la céleste sphère trop de l'homme pour la lumière et trop de l'ange pour la nuit. 2. L'ombre dit au poète, imite ce que retient l'effroi divin, n'enfreins pas l'étrange limite que nul n'a violée en vain. Ne franchis pas l'obscure grève où la nuit, la tombe et le rêve mêlent leurs souffles inouïs, où l'abîme sans fond, sans forme, rapporte dans sa houle énorme les prophètes évanouis. Tous les essais que tu peux faire sont inutiles et perdus. Prends un culte, choisis, préfère, tes vœux ne sont pas entendus. Jamais le mystère ne s'ouvre. La tranquille immensité couvre celui qui devant Dieu s'enfuit et celui qui vers Dieu s'élance, d'une égalité de silence et d'une égalité de nuit. Va sur l'Olympe, où Stésichore, cherchant Jupiter, le trouva. Va sur l'Horeb, qui fume encore du passage de Jéhovah. Ô songeur, ce sont là des cimes, de grands buts, des courses sublimes. On en revient désespéré, honteux, au fond de l'ombre noire, d'avoir abdiqué jusqu'à croire, indigné d'avoir adoré. L'Olympien est de la brume, le Sinaïque est de la nuit. Nulle part l'astre ne s'allume, nulle part l'ombre ne bleuit. Que l'homme vive et s'en contente, qu'il reste l'homme, qu'il ne tente ni l'obscurité ni l'éther. Sa flamme à la fange est unie. L'homme est pour le ciel un génie, mais l'homme est pour la terre un ver. L'homme a Dante, Shakespeare, Homère. César sont un trépied fumant, mais prétend-il de sa chimère illuminer le firmament? C'est toujours quelque ancienne idée de l'Élide ou de la Chaldée que l'âge nouveau rajeunit. Parce que tu luis dans ta sphère, esprit humain, crois-tu donc faire de la flamme jusqu'au zénith? Après Socrate et le portique, sans t'en douter, tu mets le feu à la même chimère antique dont l'Inde ou Rome ont fait un dieu. Comme cette Aison de la fable, tu retrempes dans l'ineffable, dans l'absolu, dans l'infini, quelque Amon d'Égypte ou de Grèce, ce qu'avant toi maudit Lucrèce, ce qu'avant toi Job a béni. Tu prends quelque être imaginaire, vieux songe de l'humanité, et tu lui donnes le tonnerre, l'auréole, l'éternité, tu le fais, tu le renouvelles, puis, tremblant, tu te le révèles, et tu frémis en le créant, et, lui prêtant vie, abondance, sagesse, bonté, providence, tu te chauffes à ce néant. Sous quelque mythe qu'il s'enferme, songeur, il n'est point de Baal, qui ne contienne en lui le germe d'un éblouissant idéal. De même qu'il n'est pas d'épine, pas d'arbre mort dans la ruine, pas d'impur chardon dans l'égout, qui, si l'étincelle le touche, ne puisse, dans l'âtre farouche, faire une aurore tout à coup. Vois dans les forêts la broussaille, culture abjecte du hasard. Déguenillée, elle tressaille au glissement froid du lézard, jette un charbon, ce houx sordide va s'épanouir plus splendide que la tunique d'or des rois. L'éclair sort de la ronce infâme, toutes les pourpres de la flamme dorment dans ce haillon des bois. Comme un enfant qui s'émerveille de tirer, à travers son jeu, une splendeur gaie et vermeille du vil sarment qu'il jette au feu, tu concentres toute la flamme de ce que peut rêver ton âme sur le premier venu des dieux, puis tu t'étonnes, ô poussière, de voir sortir une lumière de cet irmensul monstrueux. À la vague étincelle obscure que tu tires d'un dieu pervers, tu crois raviver la nature, tu crois réchauffer l'univers. Ô nain, ton orgueil s'imagine avoir retrouvé l'origine. Que tous vont s'aimer désormais, qu'on va vaincre les nuits immondes, et tu dis, la lueur des mondes va flamboyer sur les sommets. Tu crois voir une aube agrandie s'élargir sous le firmament parce que ton rêve incendie un dieu qui rayonne un moment. Non, tout est froid, l'horreur t'enlace, tout est l'affreux temple de glace, morne à Delphes, sombre à Bethel, tu fais à peine, esprit frivole, en brûlant le bois de l'idole, tiédir la pierre de l'autel. 3. Je laisse ces paroles sombres passer sur moi sans m'émouvoir, comme on laisse dans les décombres frissonner les branches le soir. J'irai, moi le curieux triste, j'ai la volonté qui persiste. L'énigme traître a beau gronder, je serai, dans les brumes louches, dans les crépuscules farouches, la face qui vient regarder. Vie et mort, ô gouffre, est-ce un piège, la fleur qui s'ouvre et se flétrit, l'atome qui se désagrège, le néant qui se repétrit? Quoi? Rien ne marche, rien n'avance, pas de moi, pas de survivance, pas de lien, pas d'avenir. C'est pour rien, ô tombes ouvertes, qu'on entend vers les découvertes les chevaux du rêve hennir. Est-ce que la nature enferme pour des avortements bâtards l'élément, l'atome, le germe dans le cercle des avatars? Que serait donc ce monde immense s'il n'avait pas la conscience pour lumière ou pour attribut? Épouvantable échelle noire de renaissance sans mémoire, dans une ascension sans but. La larve du spectre suivie, ce serait tout? Quoi donc? Ô sort, j'aurais un devoir dans la vie, sans avoir un droit dans la mort? Depuis la pierre jusqu'à l'ange, qu'est-ce alors que ce vain mélange d'êtres dans l'obscur tourbillon? L'aube est-elle sincère ou fausse? Naître, est-ce vivre? En quoi la fosse diffère-t-elle du sillon? Mange le pain, je mange l'homme, dit Tibère. A-t-il donc raison? Satan, la femme, Ève, la pomme, est-ce donc la même moisson? Némrod souffle comme la bise, Gengis le sabre au poing, Cambyse, avec un flot d'hommes démons, tue, extermine, écrase, opprime, et ne commet pas plus de crimes qu'un roc roulant du haut des monts? Oh non, la vie au noir registre, parmi le genre humain troublé, passe, inexplicable et sinistre, ainsi qu'un espion voilé. Grands et petits, les fous, les sages, s'en vont, nommés dans les messages qu'elle jette au ciel triste ou bleu. Malheur aux méchants! Et la tombe est la bouche de bronze où tombe tout ce qu'elle dénonce à Dieu. Mais ce Dieu même, je le nie, car il aurait, ô vain croyant, créé sa propre calomnie, en créant ce monde effrayant. Ainsi parle, calme et funèbre, le doute appuyé sur l'algèbre. Et moi qui sens frémir mes os, allant des langes ossuaires, je regarde les ossuaires et je regarde les berceaux. Mort et vie, énigmes austères, dessous est la réalité. C'est là que les Kant, les Voltaire, les Euclides ont hésité. Eh bien, j'irai, moi qui contemple, jusqu'à ce que, perçant le temple et le dogme, ce double mur, mon esprit découvre et dévoile, derrière Jupiter l'étoile, derrière Jéhovah l'azur. Car il faut qu'enfin on rencontre l'indestructible vérité, et qu'un front de splendeur se montre sous ces masques d'obscurité. La nuit tâche, en sa noire envie, d'étouffer le germe de vie, de toute puissance et de jour. Mais moi, le croyant de l'aurore, je forcerai bien Dieu d'éclore à force de joie et d'amour. Est-ce que vous croyez que l'ombre a quelque chose à refuser au dompteur du temps et du nombre, à celui qui veut tout oser, au poète qu'emporte l'âme, qui combat dans leur culte infâme les païens comme les hébreux, et qui, la tête la première, plonge, éperdu, dans la lumière, à travers leur Dieu ténébreux? Fin de L'âme à la poursuite du vrai. Fin de L'art d'être grand-père de Victor Hugo.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.